dans cet épisode du balado Compte Complet.
Et la particularité de ce premier choix-là, Alain, c'est que c'était un gars qui lance des deux côtés. Alors, il lance et de la droite et de la gauche à 95 000 à l'heure plus des deux côtés. Alors ça, c'est intéressant. Tu me disais hors d'onde avant, il aurait pu choisir un frappeur, il aurait pu se retrouver avec les Mariners immédiatement.
Hors jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte Complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte Complet. On est au milieu du mois de juillet. C'est la pause du match des Étoiles. Ça nous donne l'occasion de revenir un petit peu là, sur Marc. Bon, un bilan de... Pas la première moitié, on a déjà joué plus de 81 matchs, là, qui est vraiment la moitié de la saison. Sauf que c'est un bon moment pour regarder un petit peu ce qui s'est fait au cours de la première partie de la saison et humblement revenir sur nos prédictions. Je dis bien humblement, Marc, parce que c'est jamais parfait ce genre d'exercice. Puis on va quand même tenter de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a fait bien, puis tenter d'expliquer un petit peu... Pourquoi ça n'a pas marché dans plusieurs cas? On va commencer par l'Est de la Nationale, Marc. Et il n'y a pas vraiment de surprise. Là. C'est une lutte à deux au sommet de la section Ouest.
Oui, exact. En fait, il y a quand même une légère surprise. Pas le fait que ce soit les deux équipes, évidemment, qui soient en tête, là, les Braves et les Phillies. Mais le début de saison des Phillies, rappelle-toi, ça faisait partie un peu de nos explications, en tout cas des miennes certainement, de dire ben c'est toujours difficile de partir. Puis une fois parti, on prend un peu de retard. Mais là, ça a été tout l'inverse avec les Phillies. Écoute, on est parti en Lyon, puis on n'a jamais regardé derrière depuis, ou pratiquement, en fait, les Braves étaient partis aussi en Lyon, mais finalement, les Phillies qu'ils ont rattrapés et là, qui se sont forgés une belle avance. C'est sûr que comment prévoir une blessure, encore une fois, à Acuña Junior, c'était pas évident de ce côté-là. Et là, c'est là qu'on le ressent. Rappelle-toi, là, c'était pas le gros début de saison des Braves. C'est pas tout le monde qui jouait comme il se devait. Et la blessure d'Acuña qui est venue, évidemment, aussi chambouler bien des choses. Mais effectivement, j'aime ce que je vois des Nationals, Alain. On en avait parlé, je vous dis pas cette année, mais c'est une équipe qui s'en vient, là, qui va vraiment être parmi... je dirais pas les meneurs l'année prochaine, mais on s'en va dans la bonne direction avec cette organisation-là.
Oui, moi pour les deux premières équipes, Marc, je retiens deux choses qui ont favorisé les Phillies. Puis ça, je sais que c'est du baseball majeur, mais on a eu un calendrier favorable jusqu'ici. Ça va être plus difficile en deuxième moitié. Puis la deuxième chose, ben, du côté des Braves, Marc, on est loin de la production offensive de l'année passée. Je ne suis pas sûr qu'on pouvait réussir à avoir une moyenne globale de puissance de près de 500 comme l'année passée. Là. Mais c'était peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on a... Je pense qu'il en manque un petit peu à l'attaque là, chez les Braves. Peut-être, effectivement, que l'absence d'Acuña explique en partie, mais il n'y avait pas un bon début de saison.
Non, puis Olson non plus n'avait pas un bon début de saison. Alors, je suis bien d'accord avec toi, là. Il y a un manque en attaque. Puis la différence est quand même assez énorme si on compare à l'année passée. Ouais. Et pour revenir aux Phillies, tu sais, je veux bien croire on savait qu'Alec Baum était bon, Alain, mais là, il vient de passer à un autre niveau, ce qui fait qu'il appuie tellement bien. Tu sais, les Schwarber, évidemment, les Turner, les Bryce Harper. Ouais. Alors là, soudainement, c'est pas une affaire de deux, trois joueurs, c'est toute la formation pratiquement là, qui donne un bon rendement, sans compter, évidemment, l'appui des lanceurs partants, là.
Oui, et les Mets qui surprennent, Marc, on les avait choisis troisième, mais peut-être pas avec un rendement aussi bon que ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, avec une attaque, ma foi, là, qui surprend depuis un mois et demi. Ils avaient connu un très bon mois de juin, mais ça n'a pas arrêté là, au mois de juillet. Là. On a continué de frapper.
Exact. Puis moi, je veux dire, après un début de saison assez difficile, je m'attendais à une autre saison difficile des Mets. Bravo, pour l'instant, on est dans le coup. En fait, toutes les équipes qui jouent 500 et plus, évidemment, sont dans le coup pour une place en série. Donc, bravo. Moi, je suis bien content. Le baseball a besoin d'une équipe comme les Mets de bien jouer. Là, pour c'est un gros marché. Je sais que les Yankees prennent la place à New York, mais les Mets aussi font jaser d'eux. Puis, ça serait le fun de jaser d'eux de façon positive.
Oui, oui. Je pense que ça s'en vient. On a refait le réseau de filiales. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent de ce côté-là. La section la plus imprévisible du baseball majeur marque la centrale de la nationale. Bon, mea culpa. Je pensais pas que les Cards et que ben, moi, c'est leur partant. Il y a deux choses que je retiens pour les Cards. Ben, on peut parler des Brewers qui frappent beaucoup plus que prévu. On va avoir besoin d'aide au monticule. Mais pour les Cards, les partants ont tenu le coup, mais c'est surtout l'éclosion, Marc, de cette génération de jeunes qu'on a vu au cours des 3-4 dernières années, qui finalement, bon, Alec Burleson, c'est le meilleur producteur au point de la Nationale au cours du dernier mois. Je pense que c'est là que ça s'est passé pour les Cards.
Ben, écoute, puis tu sais, à un moment donné, oui, t'as raison, ça c'est intéressant, ils ont aussi eu face à des blessures, tu sais, Lars Nootbaar qui a pas commencé l'année, ouais. Ça a été plus difficile. Ouais. Moi, je croyais pas au niveau des lanceurs partants. Je le croyais pas. C'est pour ça que je les ai placés si bas que ça au départ. Ils ont beaucoup plus d'énergie, j'ai l'impression, là, en attaque, mais j'ai encore mes doutes, Alain, au niveau des lanceurs partants. Ouais. C'est un gros calendrier qui attend les Cards, évidemment, d'ici la fin de la saison. La surprise vient carrément de cette attaque des Brewers de Milwaukee. Il n'y a pas de doute. Puis, on parle beaucoup de l'attaque des Brewers, Alain, mais, tu sais, on se disait, avec la perte de Corbin, cette espèce de réputation d'affronter des lanceurs partants dominants, on pensait l'avoir perdu là, du côté des Brewers. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment pas si mal. Mais c'est quand même une section qui est serrée. Tu regardes ce que les Pirates font, là, les Reds sont pas loin. C'est le classement qu'on voit actuellement, ce sera pas le classement final, selon moi, dans cette division-là. Là.
Oui, écoute, on fait du rapiessage là, au monticule chez les Brewers. On a essayé d'Alex Keuchel. Déjà, c'est terminé pour Keuchel. Là. On l'a retiré de la liste des 40 joueurs. Ça ne fonctionnait pas. Écoute, en tout cas, je suis comme toi. Là, c'est une boîte à surprise. Si les Cards peuvent mettre la main sur un Jack Flaherty, ça pourrait changer la donne. Charity qui a déjà été avec les Cards de Saint-Louis, pour ça que j'ai ce nom-là, mais je pense qu'il pourrait faire du bien à l'équipe.
Ben, absolument. Ça va être intéressant, Alain, parce que c'est tellement serré dans cette division-là que effectivement une transaction importante, un joueur de premier plan qui s'ajoute à peu importe l'équipe, ça peut faire une différence. Ouais. Alors, c'est pour ça que ça va être une section à suivre, certes, là, surtout là, les quelques semaines après la pause du match des Étoiles.
Bon, Marc, on a été parfait dans la section ouest de la Nationale jusqu'ici, avec certains bémols, parce que là, il y a deux clubs, il y a trois clubs qui jouent pour 500 ou plus, mais on s'attendait, je pense, davantage de l'Arizona et de San Diego.
Oui, exact. Moi, je pensais que... Tu sais, les Padres, c'est une bonne équipe. On dirait qu'on n'est pas capable d'aller chercher une séquence de victoires qui va nous permettre vraiment là, d'aller au-dessus de 500, mais passer là, un 10-12 matchs au-dessus de 500. Les Diamondbacks, eux, s'en viennent. Ça joue beaucoup mieux parce que ça a été un lent début pour les Diamondbacks. On profite pas tant des déboires des Dodgers actuellement. Enfin, on en profite un peu, là, mais les Dodgers qui se sont forgés donc cette avance-là. Je regarde évidemment la différence entre les Diamondbacks et les Padres. On se pètera pas les bretelles tout de suite, Alain, sur cette sur cette section-là, même si jusqu'ici, ça semble bien aller. Là.
Une chance qu'on a 5 matchs d'avance des Dodgers. Là, je regardais en fin de semaine, là, Brent Honeywell qu'on acquiert, qui avait été laissé disponible pour tout le monde, commence le match. Yarbrough qui suit, Landon Knack qui est lanceur partant. M'excuse là, Marc, là, il est temps que certains blessés reviennent et que certains produisent un peu plus. Là. Gavin Stone en a donné pas mal plus que prévu. Moi, je pense que c'est le héros obscur de cette première moitié de saison pour les Dodgers. Nonobstant ce qui arrive à Otani, je parle de héros obscurs, là. Enlève Gavin Stone de cette rotation de partant, on est sérieusement dans le trouble.
Moi, je veux dire, si les séries commençaient demain, Alain, les Dodgers seraient dans le trouble. Puis pas à peu près, là.
Marc, c'est la même situation qu'au cours des deux dernières saisons. Rappelle-toi, là, on s'est retrouvé à court de partant quand les séries ont commencé.
Exact. Alors là, c'est pour ça que le marché des transactions va être actif. Tout dépend de ce qui se passe avec Glasnow et Kershaw, entre autres choses. Est-ce que ces gars-là vont revenir plus tôt que tard? Est-ce qu'on est... Tu sais, il y a un paquet de questions, là. Yamamoto, ce sera pas avant le mi-août au plus tôt. C'est beaucoup de manches là, de qualité là, qu'on n'est pas capable d'aller chercher actuellement. C'est un réel débat. Puis, ben, évidemment, on attend le retour de Mookie Betts. Est-ce que Gavin Lux va débloquer? Il y a beaucoup de joueurs qui ont des ennuis en attaque dans cette équipe-là. Et on le sait, Alain, sur une longue saison, tu peux pas te fier seulement à deux gars. C'est pour ça que c'est un marché des transactions qui a été très, très calme jusqu'ici. On va en parler un peu plus tard, mais qui, selon moi, pourrait exploser à un certain moment donné. Parce que je peux pas croire qu'on se regarde en ce moment, Alain, chez les Dodgers, puis on se dit, OK, on aime ce qu'on a, puis on va foncer avec ça en série. Là. Je suis pas mal certain qu'on voudrait avoir un peu plus d'assurance dans cette équipe-là. Là.
Oui. Bon, tout de suite, on va passer à la Ligue américaine, Marc. Moi, en tout cas, je regarde ton classement, Marc. Est-ce que les Yankees en donnent pas mal plus que prévu? On faut bien le dire, là, ce sont les lanceurs partants qui ont transporté l'équipe. Ça s'est mieux pensé au cours des deux derniers tours, on va dire. Il y a Rodon qui cherche encore, Cole qui n'est pas arrivé, mais c'est rassurant de voir Louis Gill, par exemple, ses deux derniers départs avant la pause là, qui a été très bon.
Ben, les Yankees ont une bonne équipe, on le sait. Pour la raison pour laquelle je les avais mis troisième, évidemment, il y avait l'absence de Cole au départ, et puis là, je me disais, qui va supporter Soto et Judge? Parce que, on savait que Stanton pouvait se blesser, je trouvais que Rizzo était fragile, c'est encore le cas, malheureusement. Et la Volpe s'est beaucoup améliorée en début de saison, ça a été plus difficile. On s'est aussi forgé donc une bonne avance, rappelle-toi, les Yankees, un début de saison fantastique. Je pense encore que les Yankees vont pas terminer premier dans cette division. Je pense que les Orioles ont plus de profondeur actuellement. On va attendre après la date limite des transactions. Mais actuellement, les Orioles ont plus de profondeur. Même si parfois, tu regardes les lanceurs partants, ça pourrait... on pourrait faire des comparaisons, là, mais je ne pense pas, par contre... En fait, l'équipe qui a brouillé les cartes un peu, ce sont les Red Sox. Les Red Sox, parce que j'allais dire, les Yankees troisième, je suis encore relativement confortable. Je vous dis pas que les Red Sox vont passer devant eux rapidement, mais va quand même être serré, selon moi, entre la deuxième et la troisième position, c'est-à-dire entre les Yankees et les Red Sox, parce qu'évidemment, on voit pas les Blue Jays aller nulle part cette année. Alors, c'est vraiment une section intéressante à ce niveau-là.
Tu penses que ça va être plus serré entre les Yankees et les Red Sox qu'entre les Yankees et les Orioles?
Moi, j'ai l'impression que les Orioles pourraient se détacher éventuellement. Ils n'ont pas connu une bonne fin avant la pause. Un match spectaculaire qu'ils ont gagné dimanche contre les Yankees, c'est peut-être ça que ça leur prenait. Ouais. Je dis pas que c'était chic-chic, là, mais ça... Moi, j'ai l'impression que les Orioles pourraient se distancer. De toute évidence, on peut se tromper, là. Les Yankees vont rester solides, mais pas assez pour rejoindre, selon moi, les Orioles de Baltimore.
Bon, section centrale, Marc. Nous, on avait placé deux équipes qui auraient pu surprendre. De ton côté, les Tigers, qui ont connu un bon dernier 10 jours. Et de mon côté, les Royals de Kansas City. Puis on s'en sort pas trop mal chacun de notre côté, Marc. Les Royals même jouent mieux que ce à quoi je m'attendais. Moi, je voyais peut-être à peu près 500. Ça, c'est en raison des acquisitions, je l'avais dit, de Lugo et de Waka. Lugo lance... Regarde, je m'attendais pas à ça. Il lance beaucoup mieux que prévu. Mais si tu les mets tous les deux ensemble, ils sont venus appuyer, par exemple, Singer et Ragan, ce qui donne un top 4, j'ai des lanceurs partant, avec Alec Marsh. Qui est pas vilain du tout, qui se compare avantageusement, je te dirais, avec les quatre autres équipes de la centrale.
Écoute, absolument. Les Royals jouent très, très bien. Tu sais, c'est sûr qu'avec un Bobby Witt Jr. puis un Salvador Perez aussi qui l'appuie offensivement, c'est excellent. Moi, je pense que les Royals vont tenir le coup de jouer au-dessus de 500 dans cette division-là. Les Tigers me déçoivent un peu, même tu l'as dit, ça va un petit peu mieux, mais je pensais quand même qu'on allait être en mesure d'être un peu... d'être arrivé à une certaine maturité un petit peu plus rapidement. Mais ça reste que, selon moi, la grande surprise, un peu comme dans la division centrale de la Nationale, avec les Brewers, c'est l'attaque des Guardians. On savait que Ramirez allait frapper, mais là, que Kwan connaisse une saison de la sorte. En fait, que tu regardes 1-9, c'est un peu fatigant d'affronter cette formation-là. Et selon moi, ça va tenir. Mais je suis bien content pour ces organisations-là. autant les Royals que les Guardians, d'arriver puis jouer de la balle de la sorte. Il y a quelque chose, on est en train... Ben, ça fait longtemps qu'on a formé une identité, surtout du côté des Guardians avec Terry Francona. Content de voir que ça se poursuit avec le nouveau gérant. Et même chose, en fait, on a changé aussi de personnel baseball chez les Royals de Kansas City. Fait que c'est bon de voir ça, de voir ces équipes-là connaître du succès. Tu sais, Ramirez... Il est excellent, il peut pas faire tout seul, mais tu vois que c'est le leader, tu vois que du côté des Royals, ben, il y en a deux, mais certes, Bobby Witt Jr. est en train de prendre toute la place. C'est sûr que ces gars-là, il faut leur donner beaucoup de crédit là, pour le succès de leurs équipes.
Oui, mais je ferai attention, Marc. Les Twins là, jouent de la bonne balle présentement. Par contre, il va falloir que Pablo Lopez lance mieux. Je peux pas croire, là, c'était un de mes candidats, sinon mon candidat pour le trophée Cy Young quand la saison a commencé. C'est même pas proche d'un rendement d'un partant numéro 2 présentement. Je ne lui mets pas toute la responsabilité de cette deuxième place à Pablo Lopez. Mais Marc, il faut qu'il lance mieux que ça. Là.
Oui, absolument. Mais en fait, si tu regardes l'autre côté, de voir les Twins jouer de la sorte sans ce rendement-là, qui était prévu là, qui était certainement souhaité. Là, je me dis, il y a un potentiel pour qu'il débloque là en deuxième moitié de saison là.
Bon, Marc, dans l'Ouest de l'Américaine, ça, on le dit, ça fait plusieurs semaines, puis on va le répéter du côté des Mariners de Seattle. C'est un premier rang qui est extrêmement fragile. On l'a vu encore en fin de semaine. Si on ne frappe pas davantage, on sera pas capable de résister à la poussée actuelle. Non seulement des Astros, mais aussi des Rangers du Texas.
Exact. Écoute, je suis avec toi avec ça. Si les Mariners ne bougent pas, Alain, pour aller chercher un peu d'aide en attaque, je la comprendrai pas, là. C'est ce que ça leur prend. On a un petit peu plus de vie. Puis je parle pas nécessairement d'aller chercher un frappeur de puissance. Ça peut être un gars ou deux là, qui mettent des balles en jeu un petit peu plus, qui se rendent sur les sentiers, mais il faut créer un peu plus d'énergie en attaque. Je suis d'accord. Les Astros s'en viennent après un très, très lent début de saison. Ils ont eu tous leurs défis aussi au monticule. Mais tu sais, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui est une équipe qui, en fin de saison, surtout lorsque ça compte, a l'impression que les gars élèvent leur jeu d'un cran. Moi, je surveillerais beaucoup les Astros et, tu l'as dit, les Rangers aussi, qui ont traîné de la patte un petit peu. Mais c'est certainement pas un classement final dans cette division-là.
Qui te fait le plus peur? Bon, là, je te mets dans les souliers des Mariners. Là, tu sens le souffle du Texas dans le cou. Et quand je parle du Texas, je parle des deux équipes. Là, laquelle des deux te fait le plus peur?
Moi, je pense que les Astros sont partis pour... les Rangers vont très bien. Ils ont bien terminé, évidemment, le calendrier avant la pause du match des Étoiles. Mais je regarde le différentiel des Astros. On est déjà rendu à plus 49, alors qu'il était négatif il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que les Astros pourraient poursuivre sur cette lancée-là pour toutes les raisons du monde, mais je veux dire, effectivement, les Rangers jouent de la bonne balle. Moi, c'est les Mariners qui m'inquiètent. Ils pourraient se retrouver troisième plus vite qu'on pense, là.
Effectivement, Marc, il va falloir que ça bouge. Moi, de ce côté-là, on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai bien peur des Rangers du Texas. Scherzer vient de revenir, commence à bien lancer. On commence à stabiliser la rotation des partants. Là aussi, il y a quelques joueurs qui devront en donner un petit peu plus. Mais je suis confiant que les Rangers du Texas vont revenir. Je sais que Scherzer a parlé en ce sens au cours de la fin de semaine. Ce sont les champions en titre de la Série mondiale. Puis il y a des joueurs là dont l'éclosion, je parle à Langford, Josh Smith au troisième but. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec Josh Young quand il va revenir, mais Smith ne mérite pas de perdre son poste là, régulier actuellement avec les Rangers.
C'est
une simple et belle trouvaille.
C'est un très beau problème, Alain, à voir, je te dirais. On va trouver une place, je suis convaincu, mais c'est sûr que Young va falloir qu'il reprenne sa place et c'est quand même un atout important là, qu'on pourrait ajouter à cette formation-là. Là.
Bon, c'est le temps de la question de la semaine et qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Notre question, elle est fort simple. C'est quelle équipe qui vous a le plus surpris jusqu'ici? Il y en a une tonne. On peut parler des Cards de Saint-Louis, des Mets de New York, des Red Sox de Boston. les Guardians de Cleveland. Bref, votre choix est aussi bon que le nôtre. Donc, envoyez-nous vos commentaires à propos de cette question sur Facebook, notre page facebook.com/compte-complet-balado ou encore sur notre site internet, vous pouvez y aller sur compte-complet.com.
Alain, je rappelle aux gens qui nous écoutent et nous regardent notre commanditaire principal, le plan match à Boucherville. C'est une boutique spécialisée de baseball, tout l'équipement nécessaire, cage de frappeur, cours privé, boutique en ligne également. C'est vraiment l'endroit pour venir vous équiper. Alors, on les remercie évidemment de leur support. Et je vous rappelle aussi la meilleure manière de nous rejoindre, bien, c'est d'aller sur notre site internet www.comptecomplet.com. Vous allez savoir tout sur ce balado et les endroits pour nous regarder et nous écouter.
Le repêchage a commencé ce dimanche, Marc. Faut bien préciser que le balado est enregistré lundi en avant-midi. Donc, deux rondes ont été faites. Et Marc, Émilien Pitre, on savait qu'il serait sollicité. Il est parti au deuxième tour. Ce sont les Rays de Tampa là, qui l'ont sélectionné.
Belle surprise, en fait. T'sais, on savait pas trop. Je sais qu'Émilien était... Bon, évidemment, vous savez qu'on catégorise un peu les joueurs avant le repêchage. Il était un petit peu plus loin, de toute évidence. Les Rays ont vu de belles choses. C'est une progression fulgurante. D'ailleurs, on invite les gens à écouter l'entrevue, Alain, que tu as fait aller sur notre site Internet. Une belle entrevue avec Émilien Pitre qui nous a bien expliqué, justement, son cheminement. Écoute, c'est toute une aventure qui commence pour lui. Un choix de deuxième ronde, là. Il va avoir sa chance. Je vous le dis, là, même si on a moins de rondes dans le baseball aujourd'hui, une vingaine, un choix de deuxième ronde. Je me rappelle, moi, le choix de deuxième ronde qui arrivait au camp d'entraînement, que ce soit des Dodgers ou des Expos à l'époque, il avait sa chance. On le regardait, on lui donnait donc tous les éléments nécessaires pour se développer. Donc, très, très content pour Émilien Pitre de se retrouver avec une organisation comme les Rays qui, on le sait, donne la chance souvent aux jeunes de se faire valoir.
Oui, c'est le deuxième Canadien qui a été repêché. Les Phillies de Philadelphie ont jeté leur dévolu sur un Ontarien, Dante Norrie, 27e choix au total. Dans le cas d'Émilien, c'est le premier Québécois. Bien sûr, on croit qu'il y en aura d'autres. Ce sera à suivre. Marc, ce que j'ai retenu du repêchage. D'abord, le premier choix, c'est un Australien. Il n'y avait pas de consensus quant au premier choix. C'est un repêchage qui était fort intéressant, mais Cleveland est allé avec, selon la plupart des observateurs, leur choix numéro un à eux. Tu sais, il y a quelques fois, je pense à Henry Davis avec Pittsburgh, on n'avait pas choisi le meilleur joueur, on avait choisi le joueur qu'on pensait être le plus en mesure d'embaucher. Bon, ça arrive, mais dans le cas de Cleveland, c'était leur choix. C'est un Australien. C'est pas un Australien qui a grandi aux États-Unis. Il a joué plusieurs sports lorsqu'il était en Australie. Et ses qualités athlétiques ont fait en sorte que les Guardians de Cleveland l'ont aimé. Marc, quand on regarde la façon que les joueurs de position, ceux qui arrivent à Cleveland présentement, c'est pas surprenant qu'on se soit attardé vers un joueur aux qualités athlétiques.
Exact. Alors, Travis Bazana, c'est un athlète hors pair dans tous les sports. Il a joué au cricket, il a joué à tout ce que vous voulez là-bas. Et d'arriver aux États-Unis, il était avec Oregon State. C'est vraiment remarquable pour tout le baseball australien. Là, ça donne de l'espoir. Oui. C'est probablement, ça, parce que je sais que le baseball est populaire là-bas, mais je pense que ça va davantage l'être avec premier choix au total. Là, c'est première ronde. C'est déjà exceptionnel, mais le premier au total. Donc, ça va faire des petits, ce choix-là. Et on a bien hâte de voir, évidemment, cette progression. Je l'ai écouté en entrevue. Tu vois que c'est un gars terre-à-terre. Mais de toute évidence, tu l'as dit, Alain, des qualités athlétiques qui sont certes supérieures à la moyenne.
Oui, et bon, le deuxième d'Oregon State, dans quelques années, on se rappelle d'Adley Rutschman, qui, lui, avait été choisi par les Orioles de Baltimore. Marc, t'as retenu quoi de ce repêchage? Je vais me prononcer un petit peu avant, après, par la suite, là. Mais globalement, est-ce qu'il y a des noms ou des tendances que t'as retenues de ce repêchage?
Écoute, il n'y a pas eu de surprise. Beaucoup de lanceurs gauchers. Il me semble que j'ai l'impression là qu'il y avait beaucoup de lanceurs gauchers, puis c'est normal là, on les recherche là, c'est des perles rares. Ça m'a frappé là, on a regardé quand même là, les 60, j'ai regardé de façon assez sérieuse là, les premières rondes, puis je trouvais qu'effectivement il y avait beaucoup de lanceurs gauchers, donc ça c'est intéressant. Je pense que Charlie Condon va apprécier de jouer éventuellement au Coors Field. Mais
ben écoute, on dit de lui, Marc, que c'est le meilleur frappeur disponible et qui pourrait être déjà au Colorado si c'est pas cette année, l'année prochaine.
Ben écoute, c'est effectivement, je pense qu'on verra ce que ça va donner. Ce que j'aime dans le baseball moderne aujourd'hui, c'est qu'on peut les monter rapidement. Bon, ce sont pas tous des Paul Skeens, là, mais ça reste qu'on traîne pas sous longtemps dans les ligues mineures. Il y a quelques choix d'école secondaire. Moi, j'avais vraiment l'impression, Alain, que la tendance allait paraître. Ça a paru, là, il y a plus de joueurs, évidemment, au niveau collégial, universitaire, mais j'avais l'impression que la tendance allait être de plus en plus là, que on repêche des joueurs des universités pour faire patienter un peu les joueurs d'école secondaire. Il y en a un petit peu plus que j'avais imaginé, ce qui est pas une mauvaise chose. Fait juste, j'avais l'impression que la tendance allait ailleurs. Mais il y a des joueurs qui, bon, les Mariners de Seattle. Ils sont allés avec un choix intéressant et un premier choix. Et la particularité de ce premier choix-là, Alain, c'est que c'était un gars qui lance des deux côtés. Alors, il lance et de la droite et de la gauche à 95 000 à l'heure plus des deux côtés. Alors ça, c'est intéressant. Tu me disais hors d'onde avant, il aurait pu choisir un frappeur, il aurait pu se retrouver avec les Mariners immédiatement. Là. Mais je trouve ça, c'est des histoires intéressantes. Il y a aussi des joueurs qui peuvent être autant frappeurs que lanceurs. Certains vont, je sais pas si les équipes vont leur permettre de faire ça, mais autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le niveau de la qualité des athlètes que l'on repêche au baseball moderne est vraiment supérieur à ce qu'il y avait. Il n'y a pas si longtemps, là. On n'a pas besoin de retourner il y a 30 ans, là. Mais aujourd'hui, tu vois que les programmes universitaires, même les programmes au niveau des écoles secondaires, sont tellement meilleurs. Les entraînements, c'est meilleur. La seule chose qu'il faut faire attention, puis on en a déjà parlé dans ce balado, Alain, c'est le fameux QI baseball. Tu sais, c'est bien beau de lancer fort puis de frapper fort, mais est-ce qu'on sait où la lancer la balle? Est-ce qu'on sait quoi faire lorsqu'on est sur les buts? Ça, c'est la particularité, je pense, qu'il va falloir améliorer au cours des prochaines années. Mais le reste, au niveau athlétique, c'est quand même assez remarquable.
Mais écoute, Marc, t'as pas complètement tort quand tu parles des écoles secondaires, parce qu'il y a eu des tendances. Le premier joueur de l'école secondaire qui a été choisi, c'est au 9e rang. Et bon, semble-t-il qu'il y en a qui pourraient se mordre des... l'élève de ce choix-là, c'est Connor Griffin avec les Pirates de Pittsburgh, Marc, ton petit cousin. Mais semble-t-il, Marc, que son plafond est très, très élevé. Évidemment, tu n'as pas les 4 ans supplémentaires ou les 3 années qui suivent pour te faire une idée un peu plus juste. Mais Marc, son plafond, là, il y en a qui disent c'est Mike Trout. Le seul que j'ai vu comparé à Mike Trout depuis 10 ans, c'est Louis Robert avec les White Sox de Chicago. Puis, juste pour poursuivre dans la foulée des joueurs de l'école secondaire, le premier lanceur d'une école secondaire, il faut aller à la fin, au fin fond du premier tour, c'est au 24e rang, c'est le cousin de Ken Caminiti, Cameron Caminiti. Donc, oui, la tendance est forte encore pour les joueurs du universitaire. Bon, on le voit là, la tendance est très forte. Sauf que, quand un talent exceptionnel, Marc, bon, et ce que je disais, c'est que c'est ça. Ceux qui ont frappé et ceux qui ont sélectionné 1 à 8, ils pourraient regretter de ne pas avoir choisi Connor Griffin.
Ben, mais tu sais, Alain, il y a deux éléments à ça. Il y a l'élément financier aussi à retenir. Et l'élément de développement. Parce que tu l'as dit, là, on va attendre dans le cas de Griffin, est-ce qu'il va être en mesure... est-ce que s'il était allé dans un programme universitaire important, comment il se serait développé? Bon, on ne saura jamais. Là, les Pirates prennent cette responsabilité-là. Mais ça coûte plus cher aussi, parfois, un joueur de l'école secondaire. Parce que c'est sûr que ces gars-là, évidemment talentueux, ils ont déjà des bourses d'études complètes dans les meilleurs programmes universitaires. Alors, c'est des sortir de là, ça en prend toujours un petit peu plus. C'est pour ça que la tendance, c'est qu'effectivement, il y en a moins dans les premiers, Ça en est suivi dans la deuxième où il y en a eu un petit peu plus. Il va en avoir davantage. Puis là, oups, vous allez voir dans les fins de ronde, on va aller rechercher des gars universitaires parce que on pense que ces gars-là sont peut-être un petit peu plus près aussi. Donc, c'est pour ça que les 20 rondes, c'est intéressant maintenant dans le baseball, Alain, parce qu'on peut vraiment avoir des tendances. Les 3-4 premières, on voit qu'il y a beaucoup plus de joueurs universitaires. Là, j'ai l'impression que les rondes centrales, on va peut-être aller un petit peu plus. Parce que c'est sûr qu'un choix universitaire, même si tu le repêches, un choix, c'est-à-dire au niveau secondaire, si tu le repêches, Alain, en 10 ou 12e ronde, il va te coûter cher pareil. Parce qu'il va avoir déjà sa bourse d'études et par la suite, on va voir, ça va se terminer avec beaucoup de joueurs au niveau donc universitaire. Alors, c'est intéressant parce que la philosophie des équipes est différente à bien des points de vue et c'est ça la beauté de la chose, c'est que certaines équipes repêchent le meilleur athlète disponible, d'autres vont avec leurs besoins, d'autres n'aiment pas aller avec des joueurs d'école secondaire. Mm-hmm. Alors, c'est ce qui rend le repêchage intéressant, là.
Oui, les Pirates devront payer effectivement le gros prix, comme tu viens de le mentionner, Griffin, qui lui a décidé, bon, c'est un engagement, mais il pourrait signer avec les Pirates, mais c'est Louisiana State University, donc c'est pas un programme de deuxième ordre avec lequel il s'est déjà entendu si jamais il devait aller à l'université, mais si les Pirates l'ont choisi 9e, j'imagine qu'on a fait nos devoirs.
Ben oui, exact. Alors, tu sais, on ne sait jamais le résultat de tout ça, là, mais j'ai l'impression que c'est il pourrait faire ses débuts dans le baseball professionnel plus tôt que tard. Pas majeur, évidemment, là, compte tenu du fait qu'il est très, très jeune.
Puis, physiquement, Marc, il est plus mature que pas mal de jeunes secondaires. On dit que c'est près de 2 mètres et 100 kilos à peu près là, pour le jeune. Donc, en tout cas,
il aurait pu nous en laisser un petit peu dans la grande famille Griffin de notre côté, mais c'est correct. Là, c'est correct.
Marc, côté transaction, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Il y a Kansas City, semblait-il qu'on voit une ouverture, donc on est allé chercher un releveur, Hunter Harvey. C'est un gars qui lance fort au-dessus de 95. Washington le laisse aller pour un choix compensatoire. Ça peut arriver qu'on échange des choix, Marc. Il y a certaines règles, mais un champ. Et bon, un prospect qui a été repêché, c'est un choix de deuxième ronde, Caden Wallace, c'est un joueur de troisième but repêché en 2022, deuxième ronde. Cette année, c'est une année perdue, c'est pas compliqué, il a raté un mois d'activité en raison d'une blessure à l'oblique et il est sur la touche parce qu'il a été atteint par un tir, fracture aux côtes, on va oublier cette année-là. Sauf que du côté de Washington, écoute, présentement, on a Lipscomb qui a un essai. C'est pas concluant jusqu'ici. On a un autre prospect au troisième but, mais ça fait des années, depuis le départ d'Anthony Rendon qu'on cherche un troisième but. Donc, on voulait garnir notre bon bassin de joueurs de troisième but, mais je trouve que ça a coûté cher, Marc, pour avoir Hunter Harvey. La question que je me pose, ça va coûter quoi pour Mason Miller?
Ben, effectivement, parce que les premières transactions, je dis pas, disaient que le marché, mais presque. Et effectivement, le prix à payer est un peu cher, mais écoute, remarque que toutes les équipes recherchent des releveurs. Toutes les équipes recherchent un gars qui lance fort comme Harvey le fait. Donc, c'est... Moi, je pense toujours encore que les premières équipes qui transigent, on va chercher les joueurs que l'on veut ou en fait l'élément important. Donc, parfois, je pense que ces équipes-là sont gagnantes à ce niveau-là. Le reste du marché, on verra ce que ça va donner, mais c'est quand même plus tranquille, Alain, que je l'avais imaginé au départ, compte tenu du nombre d'équipes. Alors, plus c'est tranquille actuellement, vous comprendrez que tout l'inverse va se produire, selon moi, dans les 15 derniers jours. Je vous rappelle que c'est le 30 juillet à 18h, heure de l'Est, la date limite des transactions. On enregistre ce balado le 15 juillet. Donc, les deux prochaines semaines, ça pourrait être actif. Je serais très, très surpris que ça soit tranquille, compte tenu, encore une fois, du nombre d'équipes impliquées et des besoins de la plupart de ces équipes-là.
Oui, on ne veut pas se vider, évidemment. Kansas City, si on a échangé un prospect, c'est un choix de deuxième ronde quand même, c'est que Michael Garcia, on est assez satisfait de son rendement. On pense qu'il va progresser davantage. C'est pas plus compliqué que ça, Marc. Si on décide de se départir d'un joueur semblable, c'est parce qu'on avait déjà quelqu'un qu'on aimait, là.
Oui, puis tu sais, on fait nos devoirs, évidemment. C'est clair que on regarde ce qu'on a actuellement, à quel endroit on pourrait aller piger pour nous aider dans un autre endroit. Je veux dire, c'est pas On a beau avoir des départements statistiques avancés, tout ça, là, on fait nos devoirs. D'ailleurs, de plus en plus, là, je serais très surpris que des équipes garochent des noms à gauche et à droite de la sorte. Donc, les transactions, Alain, ça fait partie du baseball moderne, sont encore plus réfléchies qu'ils ne l'étaient probablement il y a une certaine, il y a quelques années de ça. Alors, on est vraiment supporté par des statistiques et par toutes sortes d'éléments là, dans une organisation.
Ouais. Bon, c'est le temps. Hamaker dans ce match. Donc, on venait de donner un but sur balle intentionnel à George Brett pour affronter Fred Lynn. C'est ça, un match des étoiles. Là.
Un but sur balle intentionnel dans un match des étoiles. Il faut quand même le faire.
Écoute, choisis. Comme le gérant l'avait dit, le gérant de la Nationale l'avait dit après le match, Whitey Herzog, j'ai donné un but sur balle intentionnel à un frappeur de 400 pour affronter un frappeur de 300. T'sais, à ce moment-là, la moyenne au bâton étant la référence, tu comprends que c'est comme ça que ça marchait. Donc, voilà. Et parmi les 11 joueurs de ce match des étoiles, il y avait quand même certains expos. Tim Raines, André Dawson, Gary Carter et Steve Rogers, tous des partants en 1983. Donc, en ce qui concerne Mike Schmidt, il a participé 12 fois à la partie des étoiles. Il a pris sa retraite en 1989 alors que la saison était en cours et les gens l'ont quand même choisi comme troisième but partant pour le match des étoiles. Mike Schmidt qui avait eu un très bon début de saison, mais avait de sérieux problèmes avec son épaule droite. Il n'est plus capable de lancer au troisième but et Mike Schmidt ne voulait pas continuer. Il dit « Je ne suis l'ombre que de ce que j'étais et je ne veux pas continuer de la sorte. Je ne veux pas que les gens se rappellent de moi comme un joueur qui n'est pas capable de donner son rendement. » Donc, il avait décidé d'arrêter cela en 1989. Vous comprendrez qu'à sa première année d'admissibilité, Mike Schmidt a été élu au Temple de la Renommée. Certains le considèrent comme le meilleur joueur de troisième but de l'histoire du baseball.
C'est le moment de notre segment Baseball Québec. Je veux souligner, Alain, bien évidemment, il y a eu plein de choses autour de la Fédération de baseball du Québec. Il y a eu le tournoi Bob Bissonnette. On avait eu Daniel Fleury, d'ailleurs, en entrevue la semaine dernière. Il y a eu des tournois de mi-saison, les défis triple jeu. Il y a plein de choses qui se passent à la Fédération. Donc, allez sur le site de Baseball Québec pour en savoir davantage. Mais la bonne nouvelle, Alain, c'est que la ville de Drummondville a décidé d'aller de l'avant avec la construction d'un stade de baseball de 800 places. Le baseball dans la région de Drummondville est extrêmement populaire et il y a des sports-études évidemment, il y a des équipes seniors et je trouve ça vraiment le fun qu'on décide, la ville décide de mettre de l'avant ce projet-là. Alors félicitations, alors ce sera le tout nouveau stade de Jacques Desautels, ça sera prêt en juin 2025. Et évidemment, ça sera un plateau maintenant sportif qui va être accessible à tous, évidemment, dans la région de Drummondville. Mais, tu sais, Alain, je j'aime pas ça faire des comparaisons, mais le manque de structure de notre sport est évident. Là. Je sais que le stade Canac à Québec et le stade à Trois-Rivières, ce sont de magnifiques stades, mais qui ont été construits dans les années 30. On les a rénovés, c'est excellent, c'est de toute beauté. Mais là, avec la popularité du baseball, il y a maintenant des terrains en synthétique à gauche et à droite. Je sais qu'à Jonquière, l'année prochaine, on va rénover le stade de Richard Demeulles. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Mais il faut poursuivre. Ça prend des infrastructures et il y a même des associations, il y a des régions qui refusent des inscriptions, imaginez, parce qu'on n'a pas les infrastructures nécessaires. Donc, bonne nouvelle là, du côté donc, de Drummondville. Mais félicitations donc aux gens impliqués dans tout ça. Et pour terminer avec Baseball Québec, bien, je vous rappelle, la balle d'or, c'est le fameux moitié-moitié là, de Baseball Québec. Allez sur labaledor.com. Plusieurs prix à gagner. Donc, ça vous aiderait à peut-être gagner un prix extraordinaire et évidemment aider la Fédération de baseball du Québec. Et il y a, comme j'ai mentionné, d'autres prix qui sont fort intéressants, dont des voyages au camp d'entraînement. Donc, allez sur labaledor.com.
Oui, et Marc, il faut Les jeunes qui veulent bouger, il faut leur donner les moyens de, justement de bouger. On se plaît assez qu'on passe trop de temps devant les écrans. Là, s'ils ont envie de jouer, peu importe le sport, ben, qu'on leur en donne les moyens. Marc, match des étoiles, c'est les meilleurs contre les meilleurs. Tu l'as mentionné souvent, c'est le match des étoiles où on représente le mieux ce qu'est le match comparativement, surtout au football, au hockey, au basketball. C'est quoi le match des étoiles? Ça représente quoi pour toi ou dans tes souvenirs?
Ben écoute, dans mes souvenirs, c'est un des beaux moments de ma jeunesse, en 1982 au Stade olympique. Je me souviens, moi je viens de la région de Québec, Alain, donc je n'allais pas souvent voir les expos. Et lorsque j'ai réussi à dénicher des billets pour le match des étoiles, tu comprendras que je suis arrivé pas mal d'avance. J'ai gobé tout ce que je pouvais gober. Et donc ça, ça a été un moment important. Puis les matchs des étoiles, même un peu avant, mais les suivants, bon, c'était important pour moi. De voir Carter, Dawson, Range, Rogers, tu les as nommés tantôt, de les voir au match des étoiles avec leurs crampons blancs puis l'uniforme bleu poudre, je trouvais ça fantastique. Je me souviens, j'étais avec l'équipe canadienne, on se préparait pour les Jeux panaméricains alors que Tim Raines avait frappé son fameux triple dans un match des étoiles qui était en manche supplémentaire. Je sais pas, il y avait toujours cette fierté-là de voir nos joueurs des expos qui allaient bien. Carey Carter, qui a été nommé quoi? 2 reprises, je pense, si je ne m'abuse, le joueur par excellence à des matchs des étoiles. Donc, c'est toujours le fun. J'ai participé moi-même à des matchs des étoiles dans le baseball professionnel, évidemment pas majeur, mais au niveau mineur, puis ce sont... Encore une fois, des souvenirs incroyables. Philippe Allou était un de nos entraîneurs. Clint Hurdle et Philippe Allou étaient les deux entraîneurs de l'équipe de la Ligue nationale à l'époque. Ça, c'était dans la Ligue de la Floride. Donc, tu sais, tout le monde, ça permet de... Le baseball permet ce genre d'échange-là, si vous voulez, entre les joueurs et entraîneurs. Il y a un respect, évidemment. Moi, je trouve ça fantastique. Mais à la fin de la journée, lorsque le match commence... Tu sais, je me souviens, Pedro Martinez, il dit, ben écoute, moi, là, je suis bien beau aller m'amuser, mais je veux les retirer sur 3 prises, les 3 premiers frappeurs, puis c'est le frappeur, ben il veut bien apparaître face à un Pedro Martinez, par exemple. Donc, t'as vraiment, tu sais, l'élément important, c'est-à-dire, ben le fameux duel entre lanceur et frappeur. C'est sûr, est-ce que le vulture va se garrocher dans la clôture pour attraper une balle? Peut-être pas, mais ça reste que c'est, selon moi, le meilleur match des étoiles, des majeur, là, si vous voulez, parce qu'on a vraiment la crème de la crème. Un, oui, mais deux, tu as l'élément important, c'est-à-dire évidemment de mieux paraître possible.
Oui. Moi, je vais juste rapidement, Marc, je retourne dans ma jeunesse quand j'ai commencé à suivre le baseball. On parle du milieu des années 70 et on n'avait que 2 matchs par semaine à la télévision d'État, les mercredis et les samedis soirs. On voyait à peu près jamais les équipes de la Ligue américaine. Et pour moi, c'était l'occasion de les connaître, ces joueurs-là, de la Ligue américaine. On les voyait à peu près jamais. Même certains clubs de la Ligue nationale qu'on voyait très, très peu. Donc, pour moi, c'était une occasion là de découvrir Reggie Jackson, Carl Yastrzemski, qu'on ne voyait jamais ou à peu près, dont on entendait parler. Nolan Ryan, on voyait ses statistiques avec des retraits sur des prises en plus finir, mais on n'avait pas l'occasion de le voir très, très souvent. Fait que, pour moi, quand j'étais jeune, c'était ça le match des étoiles. C'était l'occasion unique de voir les meilleurs joueurs des deux ligues. Marc, en fin de semaine, les Rockies du Colorado ont frappé 12 coups de circuit en 3 matchs. Il n'y a rien d'anormal, tu vas me dire, mais c'est parce qu'ils les ont réussi au domicile des Mets de New York. Je regardais ça, puis je me disais, ça se peut pas. Là, puis j'ai regardé un bout du match de dimanche contre les Mets. Tu sais, les Rockies ne frappent pas là, depuis quelques années. Et c'est pour ça que, ils ont repêché un joueur qui devrait arriver avec l'équipe au plus tard l'année prochaine. C'est comme quoi le sport professionnel, et le sport dans son ensemble, quand on parle de l'aspect imprévisible de ça, moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, là, c'est tout à fait inattendu. Il y a même Charlie Blackmon qui a frappé son premier circuit de la saison hors du course field.
Il fallait que tu le soulignes, hein?
Ben oui.
Mais tu sais... Les Rockies, là, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, là, et pour cause, c'est quoi, 32, 33, 60, en tout cas, on est dans, c'est pas les grandes saisons. Mais regarde joueur par joueur, que ce soit un Tovar, que ce soit un Doyle, Nolan Jones, évidemment, qui est blessé, là, mais tu regardes, là, ce sont des sacrés bons joueurs de balle. Des, tu sais, on parlait tantôt du côté athlétique.
Oui.
À un moment donné, ça va finir par débloquer, là. Parce qu'on a vraiment des, tu sais, des joueurs qui sont capables de faire du dommage. Et, tu sais, c'est peut-être que ça va leur permettre, justement, de reprendre un peu de confiance. On a l'impression qu'on n'a pas de confiance, surtout à l'étranger, là. Bon, on connaît les raisons.
Oui.
J'espère, parce que si un stade qui favorise pas les frappeurs, c'est bien celui des Mets de New York, et d'arriver là et de connaître autant de succès, c'est quand même assez impressionnant, là.
Oui, c'est une équipe qui peut vous faire mal paraître. C'est ce que je disais en début de saison, Marc, comme tu mentionnais, il y a des bons athlètes au sein de cette équipe-là. Comme voltigeur, je pense qu'il est à peu près temps, ça fait longtemps qu'on le dit, ça prend des gars qui couvrent du terrain. Il y en a de l'espace, et des lanceurs qui ont joué à Denver, qui ont joué Denver, qui a été la filiale des Expos pendant plusieurs années, dans les années 80. Et bon, l'ancien stade où évoluait le Mile High Stadium, c'est ce qu'on disait, les distances étaient énormes, mais c'est pas les circuits qui faisaient mal, c'était les balles là, qui passaient par-dessus l'avant-champ, là, parce qu'il y avait tellement d'espace. Ça prend des voltigeurs qui couvrent du terrain, Marc, pour jouer là-bas. Ça, c'est la première recette. L'attaque... Ben, tu vois, là, Brenton Doyle est en train de se réveiller. Tolia a eu un beau week-end. Bon, tu sais, moi, je pense qu'on commence à voir quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord avec toi pour ça, pour les Rockies du Colorado. On va finir, Marc. Tu insistes beaucoup sur le QI des joueurs de baseball. Tu en as parlé lors du repêchage. En fin de semaine, ce que j'ai vu, c'est pas très beau. Les Dodgers qui ont perdu en fin de semaine. Écoute, le match de dimanche était épouvantable en défense. Les Yankees auraient dû balayer les... En fait, ils devraient être premiers présentement. Ils l'ont échappé avec deux gars qui, généralement, sont fiables en défense. Ça a donné une autre victoire de vautour à Craig Kimbrell. Il y en a deux cette année contre les Yankees de New York en passant. Mais là, je te mets dans une situation précise dans le match de dimanche entre les Phillies de Philadelphie et les A's d'Oakland. Bon, situation, tu as un gars au deuxième et au troisième but. Les Phillies sont à l'attaque. Ils ont moins de deux retraits. Les Phillies se font lessiver par les A's. Les A's qui ont frappé une tonne de circuits dans le match de dimanche, match à sens unique. Là, tu as un ballon au champ gauche à distance raisonnable. Ça se peut qu'il y ait un jeu au marbre, mais tu mènes par plusieurs points. Logiquement, le relais va se faire au troisième. Bon. Là, une fois que la balle est frappée au champ gauche, le lanceur s'en va. Lui, couvrir derrière le receveur, comme si ça s'en allait au marbre. Le joueur d'arrêt-court, lui, s'en va à l'entrechamp comme relayeur. Et le joueur de troisième but, lui, s'en va comme relayeur à côté du monticule. Donc, il n'y a personne au troisième but. Quand le voltigeur capte la balle, lui, son réflexe, bon, j'ai plusieurs points d'avance, je peux lancer au marbre, mais j'en ai pas besoin. Je vais m'organiser, le gars du deuxième avance pas. Il lance au troisième, mais là, troisième but, il est au monticule, l'arrêt-court n'est pas venu couvrir, donc la balle est passée tout droit et a quitté la surface de jeu, de sorte que le coureur qui était au deuxième, qui n'avait probablement pas l'idée d'avancer, ben, est venu marquer. Là, Marc, la question que je te pose, qui aurait dû couvrir le troisième là-dessus? Est-ce que c'est le lanceur, c'est le joueur d'arrêt-court ou c'est le
joueur de troisième? Non, c'est carrément... Dans la situation que tu fais mention, Alain, surtout avec une avance de la sorte, le voltigeur a pris la bonne décision en lançant au troisième. Donc, le troisième but est fautif. C'est lui qui aurait dû... Le troisième but devient le relayeur, si un jeu au marbre. OK? Alors, le troisième but n'est pas souvent relayeur. Il est relayeur lorsqu'il y a un coureur au deuxième puis un simple au champ gauche ou s'il y a un ballon sacrifice au champ gauche. C'est à peu près les deux seules fois qu'il devient relayeur. Mais dans ce cas-ci, avec une avance de la sorte, tu t'en vas au troisième, tu t'obstines même pas. Alors, lui aurait dû rester à ce moment-là au troisième. Le joueur d'arrêt-court, je ne sais pas, il était où sur le jeu, mais lui, probablement qu'au départ, la balle est soulevée de son côté. Donc, sa première réaction, c'est d'aller tenter d'attraper la balle au départ. Et deuxièmement, lui aurait dû probablement guider son voltigeur aussi, parce que ça sert à ça, un joueur d'arrêt-court aussi, de dire probablement 3-3-3. Tu sais, en lançant au troisième. Alors, tu sais, il manque de communication de toute évidence là, à l'intérieur de cette équipe-là sur un jeu de la sorte. Puis ça fait mal paraître tout le monde. Même le lanceur, à la limite, aurait pu aller, oui, derrière le marbre, mais de tricher un peu, c'est-à-dire de passer entre la ligne du troisième et la ligne et le marbre pour... tu sais, essayer de juger à savoir est-ce qu'il s'en va au troisième, est-ce qu'il s'en va au marbre. Donc, mais ça, Alain, ce sont des jeux qui se préparent d'avance. Moi, je dis souvent, lorsque je suis entraîneur, pensez à votre jeu d'avance. Alors, c'est-à-dire que si la balle n'est pas frappée très loin, on va aller au troisième. Même en voltigeur, on peut se parler. Hey, on m'aime par beaucoup, là. Moi, je me souviens, j'étais voltigeur de centre, je guidais beaucoup mes voltigeurs de droite et gauche en disant, hey, on a de l'avance, là, un ballon, là, on s'en va au troisième. Il y a moins de ça, Alain, donc on va avoir plus de ces jeux-là, c'est ce que je veux dire, puis j'espère qu'éventuellement on va les éliminer, parce que cet aspect-là du baseball est aussi important que le fait de frapper des balles à des distances folles ou de lancer des balles à des forces complètement folles également.
Écoute, j'ai parlé brièvement de la fin de match des Dodgers et des Yankees. Marc, ça, c'est des erreurs physiques, ça arrive, est-ce que tu me rends ça dans la catégorie des erreurs physiques ou mentales?
Ça reste des erreurs physiques parce que Volpe a semblé bien se positionner avant de saisir la balle, puis là, oups, ça s'est retrouvé, là. Je peux pas blâmer nécessairement le terrain. Il a semblé lui-même se mettre dans une position vulnérable. Et dans le cas de Verdugo, une balle frappée en flèche directement vers un voltigeur, c'est souvent le jeu le plus difficile. Par contre, ce qu'on enseigne souvent, c'est que tu dois faire ce qu'on appelle le drop step. Donc, tu recules d'un pas juste pour t'assurer de prendre cette fraction de seconde de plus pour bien juger la balle, alors que son premier réflexe a été de foncer sur la balle, ce qui est souvent le moins bon réflexe à prendre. Et là, il s'est fait jouer un tour. Donc, ça a fait très mal paraître les Yankees à ce niveau-là, eux qui s'étaient forgés une avance de 3 points grâce à un coup de circuit. Mais écoute, Kimbrel est rendu à 6 victoires, Alain, je veux juste mentionner ça.
Oui, bon. C'est pas possible. Mais remarque, à sa défense, il allait quand même bien. Là, ouais. Il avait connu un bon dernier mois. Mais
ça reste un élément que je pense que les Orioles pourraient aller bouger, c'est d'aller chercher un bras de plus en fin de match.
Bien d'accord avec ça. C'est le temps de vous présenter l'horaire de la semaine, qui est une présentation de la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, je vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Donc, cette semaine, c'est la pause du match des étoiles. Ce lundi, le concours de coups de circuit présenté à 20h. Le lendemain, soit mardi, le match des étoiles, on sera là à compter de 19h30. Et on reprend l'action dimanche. C'est un duel qui promet. Les Red Sox de Boston contre les Dodgers à Los Angeles. Comme à chaque dimanche, ce sera à 19h. Les trois événements seront présentés à RDS. On vous souhaite une excellente semaine. Profitez du match des étoiles et on se revoit, nous, pour le prochain compte complet. Lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.